je vous le disais, cette table ronde est très sérieuse. Faut que vous le sachiez, c'est une table ronde scientifique autour justement de la recherche des origines et de l'histoire du prince charmant. Donc à cette table, Séverine Braguier, alors, qui est pour le coup une vraie scientifique, qui est archéozoologue et qui travaille à l'INRAP, l'Institut national de recherche archéologique et du patrimoine, c'est ça ? Et préventive, pardon, voilà, et qui a fait l'exposition qui se trouve dans la tente à côté du Grand Salon des Imaginales. Je ne sais pas si vous êtes allé la voir, mais vraiment, ça vaut le coup. C'est une exposition sur l'histoire du prince charmant, mais qui permet aux enfants, et pas qu'aux enfants, de retrouver toute la chronologie de l'histoire de notre humanité. Voilà, donc on commence et vous allez voir que le prince charmant, il arrive dès le néolithique. J'en dis pas plus. Mais également Chantal Robillard. Chantal est écrivain, poète, mais a fait aussi de nombreuses recherches. Et elle va nous montrer que les princes charmants ne sont pas toujours si charmants qu'on le dit. Et entre autres, elle a retrouvé, recueilli et réécrit les vraies fins de Blanche-Neige. Et vous verrez, ce n'est pas terrible, terrible. Et puis, Ludovic Suliman, qui est le conteur. Il n'y a pas d'équipe de recherche sur le prince charmant sans conteur, ce n'est pas possible. Donc, qui est le conteur et qui va nous aider à retrouver la vérité, encore que la vérité, Ludovic. C'est pas si évident que ça, la vérité et les princes.
Donc, je suis obligé de prendre le micro, je pense. Alors, bonjour. Donc, Marie-Charlotte est pleine d'énergie. Elle nous réchauffe, elle nous fait du bien. Et j'étais un peu embarrassé lorsqu'elle m'a demandé de parler du prince charmant et notamment de la vérité. Parce que moi, quand j'étais jeune, comme tous les jeunes, j'étais un prince. Et c'est vrai que je cherchais moi aussi ma princesse. Et en même temps, j'étais persuadé que je la trouverais en trouvant la vérité. Donc lorsque j'étais jeune, j'étais persuadé que la vérité, j'allais la trouver dans les livres. Alors ici, il y a plein de livres. Et justement, moi, je lisais des livres. Et plus les livres, ils étaient épais, plus les mots, ils étaient compliqués, plus moi, j'avais l'impression que j'allais trouver la vérité. Et ensuite, j'allais trouver ma princesse. Et donc un jour, je me promenais à Paris. Et je passe devant une petite librairie, et là, il y avait un carton écrit au marqueur dessus « Si vous cherchez la vérité, entrez ici ». C'était plein de fautes d'orthographe, mais j'ai réussi à lire quand même. Je suis rentré dans la librairie, et vous savez, c'était des boutiques comme on en faisait autrefois. C'était pas avec les portes automatiques, il y avait juste une petite clochette qui a tintinabulé. Et là, je me suis retrouvé dans un autre monde. Alors, c'était un monde de livres, c'est vrai, mais pas des livres bien rangés. C'était pas les derniers best-sellers, les dernières nouveautés. Il y avait plein de titres dans toutes les langues du monde. Et donc, comme ça, il y avait des piles de livres comme ça, du sol au plafond. Et donc, je me promenais comme ça. Et il y a un homme, c'était le libraire derrière son comptoir. Il m'a dit, vous désirez, jeune homme ? Et je lui dis, écoutez, j'ai vu le panneau, là. Si vous cherchez la vérité, entrez ici. Moi, justement, je cherche la vérité. Il m'a coupé la parole. Il m'a dit, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Et donc, je vois le libraire avec ses binocles, là, qui se faufile entre les piles de livres. Et puis, moi, il y a un geste qui m'a marqué, c'est qu'il a laissé glisser son doigt, vous savez, sur le dos des livres, comme ça. Mais un peu à la façon d'un pianiste sur les touches d'un clavier. Et il s'est arrêté pile à un livre. Il a tiré comme ça d'un coup sec en arrière. Et la pile a à peine bronché. C'était le geste d'un professionnel. Et il m'a tendu le livre. C'était un vieux livre avec, vous savez, les couvertures comme on en faisait autrefois, un peu textile. Il était un peu taché, c'était un livre d'occasion. Il me dit, c'est pour vous. Et moi, je regarde, je lis le titre, c'est un livre de contes, Marie-Charlotte. Alors je dis, mais c'est un livre de contes, monsieur, c'est pour les enfants. Il me dit, oui, c'est un livre de contes, c'est pour apprendre à grandir. Tenez, à l'intérieur, il y a une histoire pour vous. Il m'ouvre le livre et là, il me dit, lisez. Et je lis le titre, c'était l'histoire du prince qui cherchait la vérité. Alors, je vous résume l'histoire parce qu'on a peu de temps, hein, ce que tu m'as dit. Mais en fait, voilà, c'était l'histoire d'un prince, il était bien né, il a eu droit aux fées sur son berceau, et il était surtout très curieux, et lui, il désirait justement trouver la vérité. Donc, on va dire, il arrive à l'âge où d'autres vont chercher la gloire, l'amour, la guerre. Lui, il va chercher la vérité. Mais dans sa tête de prince, il pensait qu'on était dans le monde du merveilleux dont tu parlais tout à l'heure. Hein. C'était en ce temps-là où tout était magique. Et donc, il était persuadé que la vérité existait réellement, que c'était un personnage réel, une femme. Et le voilà qui part, en quête de la vérité. Alors évidemment, vous l'imaginez sur son cheval de prince charmant, avec son habit de prince charmant, vous l'imaginez comme vous voulez, parce que c'est ça les contes. Vous imaginez. Et donc moi je l'imaginais déjà en lisant, et je tournais les pages, et à un moment il arrive comme ça dans une ville, et puis il va de ville en ville, et partout il demande où est la vérité. Il va voir les plus sages, les plus savants, et partout il demande où est la vérité. Alors on le conduit comme ça à travers les pays, il voyage de plus en plus loin, et donc il va jusqu'au au bout du monde. Le bout du monde connu. Et donc il se retrouve dans une forêt, il est perdu, et il a froid, beaucoup plus froid qu'ici encore. Et évidemment, il y a toujours un feu dans les forêts, dans ces cas-là, ça tombe bien. C'est pas comme ici. Et donc il voit un feu, il s'approche, il y a des hommes là qui sont tout emmitouflés dans leur cape de laine. Et il se présente à eux, il dit voilà, je cherche la vérité. Celui qui m'aidera à trouver la vérité, je lui donnerai tout mon or. Bon, à peine il dit ça, qu'il y a un des trois hommes qui se lève, il dit, la vérité, tu vas la voir. La vérité, c'est qu'on va te tuer et te voler. Bon, le prince, il n'a pas eu le temps de dégainer son épée, là, comme D'Artagnan tout à l'heure, non. Que les trois brigands sont sur lui, le roue de cou, le frappe, le bastonne, comme ça, à mort, un long moment, il le massacre, le sang gicle, il a beau crier. Et à la fin, on le dépouille, il se retrouve comme ça, à moitié nu sur le sol. Et le prince, en fait, le chef des brigands avait menti parce que le prince n'était pas mort. Alors il se traîne sur le sol dans cette forêt du bout du monde, et puis il se redresse, il trouve un chemin, il suit le chemin, il arrive à une espèce de grotte, et il entend une voix de l'autre côté qui lui dit « Entre, je t'attendais ». Alors il entre, et là il y a une espèce de feu, il y a une forme derrière le feu qui distingue à peine, et il entend une voix qui lui dit « Je suis la vérité, tu me cherches depuis tant d'années, et bien me voilà ». Alors il oublie toutes ses douleurs, tous ses malheurs, et il fait un pas en avant, et là, il voit la vérité, telle que je vous vois. Et il fait un pas en arrière, parce que la vérité, telle qu'il la voit, elle est une femme horrible, laide, monstrueuse, édentée, le corps couvert de vermine, les yeux chassieux, comme on dit, elle a les ongles cassés. Et puis, il la regarde, il dit, c'est pas possible, vous n'êtes pas la vérité. Et la vérité, il dit, mais si, tu sais, les hommes de la terre, ils disent que la vérité n'est pas belle à voir, et c'est vrai. Et le prince, il refuse de la croire. Il dit, écoute-moi, écoute-moi. Alors il l'écoute et elle lui raconte tout depuis sa plus tendre enfance. Tout ce qui lui est arrivé, ses plus intimes secrets, elle les connaît. Tu vois, c'est moi, la vérité. Alors, qu'est-ce que tu me veux? Et là, le prince, il lui demande, quelle est la parole qu'elle veut lui confier pour qu'il la transmette aux hommes de la terre, pour que cette parole de vérité les éclaire comme un phare? Et la vérité, cette femme laide, horrible. Elle grimace une sorte de sourire de sa bouche édentée et elle lui dit « Tu diras aux hommes de la terre que je suis jeune et belle. » L'histoire s'arrêtait là, comme s'arrêtent les contes, brutalement. Je me suis retrouvé là, moi, dans cette petite boutique avec le livre en main. Le libraire me regardait, il avait un petit sourire. Alors évidemment, j'ai acheté ce livre et je suis sorti de la librairie. Et le monde n'avait pas changé, mais moi si. J'avais grandi d'un pas. Et à partir de ce jour, j'ai cherché justement la vérité dans les contes. Parce que si la vérité avait pu mentir, peut-être que moi dans les mensonges, puisqu'on dit que les conteurs sont des menteurs et c'est vrai, peut-être que moi dans les mensonges, je trouverais un petit peu de vérité. Alors voilà, l'histoire du prince qui cherchait la vérité, c'est une histoire de prince. Est-ce que c'est le vrai prince?
Je ne sais pas, Ludovic, et nous allons nous tourner vers Séverine, justement, qui, elle, est allée de façon très scientifique rechercher le prince charmant et qui a trouvé des origines du prince au néolithique, c'est ça, cher ami?
Oui, alors même bien avant le néolithique, dès le paléolithique, au moment où les hommes sont encore nomades, chasseurs, cueilleurs et pêcheurs. Donc effectivement, on a des traces très scientifiques et très sérieuses de Néandertaliens qui incarnaient donc ce fameux prince charmant.
Oui, mais à l'époque, il n'était pas très beau alors, ce prince charmant, parce que qui dit prince charmant dit dans les contes, il est beau, il est riche, il est fidèle, on s'en fout un peu, il est... Donc comment il est le...
Alors effectivement, je l'ai défait des marais avec Néandertal. Donc l'homme de Néandertal en fait était accompagné de femmes Néandertal, donc qui devait trouver beaucoup de charme aux hommes néandertaliens. Et c'est une période au paléolithique où l'homme fait de la parure, avec arrive à se parer avec des jolies dents d'animaux perforées. Ils savent faire des épingles, donc ils ont des jolis vêtements en peau de bête. On a également des traces d'utilisation d'ocre pour se peindre le corps ou les cheveux. Donc je pense qu'effectivement, notre prince néandertalien devait ne pas manquer de charme, quoi.
Mais alors, à l'époque, il n'a pas de cheval, il n'a pas d'épée.
Alors, il n'a pas d'épée, il n'a pas de cheval, mais c'est un chasseur, c'est un homme vaillant qui va pour nourrir sa communauté, chasser des animaux dans la forêt. Et ils ont effectivement à ce moment-là ce qu'on appelle des sagaies et des propulseurs, qui sont des outils de chasse un peu prestigieux. Vous avez des propulseurs qui sont extrêmement décorés, avec notamment des cervidés, de sculptés dans les bois de serre, etc. Donc je pense effectivement que ça vaut une épée.
Mais alors, on arrive à l'âge de bronze. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'il récupère à l'âge de bronze ?
Alors, à l'âge de bronze, effectivement, notre prince charmant va avoir un compagnon essentiel dans son histoire, c'est le cheval. Effectivement, c'est à l'âge du bronze que l'homme a domestiqué le cheval.
Une date ? Alors, parce qu'on n'a plus ça vraiment
en tête.
On
est vers moins 1800 avant Jésus-Christ pour la France. Et c'est à cette période, en fait, que l'homme domestique le cheval. Donc, effectivement, notre prince charmant, à l'âge du bronze, va être accompagné de son cheval.
Il a une épée aussi ? Alors, elle est en quoi, son épée ? Alors, elle est en bronze ?
Oui, et ben, à partir de la proto-histoire, ce qu'on appelle la proto-histoire, c'est donc la période où vous avez l'arrivée des métaux, donc d'abord l'or, le cuivre, le bronze et ensuite le fer. Donc dès le début, dès l'or, on a ça en Bulgarie sur un site qui s'appelle Varna, de très jolies armes en or d'abord, et après on les aura en France en cuivre et en bronze.
Alors, sur notre territoire, là, il se retrouve à un moment donné à se battre aux côtés des Gaulois ?
Oui.
Si on continue un petit peu ?
Tout à fait. Étant donné que notre prince charmant traverse le temps à la recherche de sa princesse, il va effectivement vivre les grands moments de l'histoire de l'humanité. Et pour la Gaule, à ce moment-là, effectivement, vous avez les Romains qui viennent d'Italie et qui veulent effectivement conquérir la Gaule. Et lui, étant dans les Vosges, il va effectivement aider les Gaulois à résister contre les Romains, ce qui ne marchera pas. Mais
oui, puis il va bénéficier quand même des avancées romaines.
Ah oui, parce qu'alors après, pour lui, c'est une chance que les Romains soient arrivés, parce que les Romains vont arriver avec tout un système d'organisation, notamment des routes, des aqueducs, tout un système très complexe pour circuler au sein de l'Empire romain. Et effectivement, dans sa quête pour rechercher sa princesse, il va pouvoir bénéficier, avec son cheval, de voies romaines extrêmement bien construites, des cartographies aussi et des repères dans l'espace, ce qui lui permet de parcourir un environnement beaucoup plus grand pour la trouver.
Il va pouvoir bénéficier des bains aussi, il va pouvoir se faire un petit peu beau.
Alors effectivement, avec les Romains, vous avez aussi tout un système, on va dire, sur l'hygiène qui va se développer, avec notamment les bains chauffés. Les Romains sont les premiers en fait à faire des systèmes pour chauffer l'eau dans les piscines, les bains des villas. Donc vous avez des Romains qui sont extrêmement propres. Vous avez aussi l'introduction des parfums. Vous avez l'introduction aussi d'un certain nombre de produits de maquillage qui rend les femmes et donc les potentielles princesses beaucoup plus belles.
D'accord. Donc on se retrouvera tout à l'heure. On va s'arrêter là au Capétien. L'histoire parle. Là, il va rentrer quand même en concurrence avec d'autres princes. Donc on y reviendra tout à l'heure. Et je me tourne donc vers vous, Chantal, qui vous aussi avez travaillé, recueilli, publié la petite histoire des déboires de ce prince, et en particulier de ce prince de Blanche-Neige, où là, on ne nous dit pas tout à fait la vérité, parce que l'histoire, selon vous, ne se terminerait pas comme ça.
Absolument. Blanche-Neige, lorsqu'elle se réveille, en réalité... Vous savez, de son cercueil de verre. En réalité, il n'y a pas le prince, il n'y a pas les nains, donc elle est obligée de se débrouiller toute seule, elle est obligée de percer elle-même avec ce qu'elle a sous la main, le cercueil de verre, de sortir, et là, elle va rencontrer une première fois 7 princes, 7, hein, pas un seul, 7, qui sont poètes, donc des princes poètes, qui sont charmants avec elle, qui sont même charmeurs, qui sont, voilà, une belle petite jeune fille, comme ça, ils sont tout à fait ravis. Mais en même temps, elle les dérange, elle tombe en réalité dans une réunion d'écrivains. Et ces écrivains, tout en l'accueillant très bien, parce qu'elle est très jolie, elle a des beaux décolletés, elle est habillée un peu moyenâgeux, etc., bah, ils continuent, ils ont des tâches à accomplir dans leur réunion, qui n'est que bimestrielle. Et donc, voilà. Et en même temps, ils lui posent des questions. Comment vous appelez-vous ? Alors, elle est tellement effrayée qu'elle dit... Et ils disent, mais elle parle en lipogramme. Et voilà, il s'ensuit toute une série de choses. Et finalement, cette blanche neige-là, au fond, ce n'est pas la bonne, parce qu'elle est en neige et elle fond à la fin. Elle fond dans les bras de l'un des princes charmants. Alors, il y en a une autre qui arrive, parce que les blanches neiges aussi sont renouvelables. Et une autre blanche neige, par exemple, est réveillée par un prince qui, lui, a été transformé par la méchante sorcière, vous savez, la fameuse méchante qui donne la pomme. Elle a transformé tous les princes qui s'approchaient de Blanche-Neige, puisqu'elle sait que Blanche-Neige va être réveillée par un baiser. Elle les a transformés en diverses sortes de bêtes. Et là, nous avons un escargot qui arrive, clopin-clopant, enfin, si je puis dire, limaçant-limaçant, et qui essaye de parler à la Blanche-Neige, la réveiller. Et cette Blanche-Neige-là, elle est dans une grande bulle de verre. On comprend quelque part que voilà, elle est dans une boule de neige, au fond, et que donc les proportions de cette Blanche-Neige par rapport à l'escargot sont peut-être plus modestes que la taille humaine habituelle. Et donc, voilà, l'escargot ne réussit pas à l'intéresser, parce qu'elle, elle attend le prince charmant. Quand elle est réveillée, elle veut voir un vrai prince avec une couronne, enfin, vous voyez, ceux qu'on voit sur les biscuits, ou dans le film de Podane, imaginez Jacques Perrin. Elle ne veut pas un escargot bavant et lui balançant des mauvais alexandrins monostiques. Donc... elle n'est pas contente, elle repart se coucher, celle-là. Et l'escargot s'en va un peu en fulminant. Et la sorcière qui guettait, se disut alors, elle mange l'escargot, mais au loin apparaît un autre prince, tagala, 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 à cheval. Et donc, on suppose que ce prince-là, il va aussi avoir des déboires, parce que là, ça va continuer, hein, il y a cette idée. Donc voilà, j'ai 7 variations comme ça sur des princes charmants ou des princesses charmantes qui ne sont pas tant que ça, parce que ma Blanche-Neige n'est pas toujours très aimable. D'abord, elle est réveillée un peu grognon, comme ça, elle n'est pas forcément... vous savez, quand on a dormi presque 100 ans, on ne sait pas, hein, c'est la Belle au bois dormant qui dort 100 ans. Blanche-Neige, on ne sait pas combien de temps elle dort exactement dans son cercueil. Les deux contes étant très proches et très, oui, enfin, se croisant beaucoup. En tout cas, celle-là, elle a suffisamment dormi pour avoir besoin de prendre une douche, hein, d'aller faire pipi, manger un bout, se recoiffer avant de rencontrer le prince. Donc, voilà, il y a une série de choses comme ça qui font que cette Blanche-Neige a du mal à s'en sortir. Et la seule qui s'en sort vraiment, c'est celle qui part toute seule. Elle part dans le blanc de la page. Et là, alors, elle change d'univers. Et donc, on peut supposer que celle-là, loin dans le temps et l'espace, elle va rencontrer son vrai prince charmant. Sauf qu'on n'en est pas si sûr que ça et que le prince, il n'a pas forcément envie d'elle. Donc voilà, ce sont mes variations blanche-neigeuses.
Je rappelle que dans La Belle au bois dormant, le prince a pour mère une ogresse.
Exactement.
Qui va essayer de se taper la princesse et les deux gosses.
Tout à fait.
Et que finalement, quand il reviendra de guerre pour la sauver, la mère se précipitera dans une grande marmite remplie de crapauds, de vipères, etc., où elle sera mangée par les crapauds et les vipères. Et donc, il dit à la fin que, bien sûr, c'était sa mère, bon, mais enfin, il lui reste sa femme.
Oui, il y a des princes sûrement très cyniques.
Voilà. Alors, Ludovic, au-delà des frontières, il y a aussi des princes charmants un petit peu particuliers, et en particulier des princes charmants qui ont des déboires avec les femmes. Et je pense en particulier, je pense, si vous pouviez nous la résumer, au récit du prince, au conte du prince tapissier.
Alors, ouais, c'est un autre conte, c'est une très longue histoire. Je vais essayer d'en parler sans la raconter. En fait, c'est difficile de parler d'un conte, parce que souvent, moi, je dis, c'est les contes qui parlent pour nous, quoi. Donc, il faut les laisser parler. Donc, cette histoire, en fait, on a un prince. Alors, lui, il a tous les archétypes du prince. Hein. Il n'est pas né en terre d'Alien, mais voilà, il a son cheval, il est fougueux, il est vaillant, toutes les femmes rêvent de l'épouser, hein, toutes les princesses rêvent du prince. Lui, il n'en voit aucune, aucune, parce que lui, le seul truc qui l'intéresse, c'est de faire du cheval. Ça, c'est dans le conte. Donc, je vais aller vite. Il faut l'imaginer, tous les jours, il part sur son cheval. Donc, il faut imaginer que c'est un jour très chaud. Ah, ça fait du bien. Bon. Ouais. Non, mais ça fonctionne quand même, on y arrive. Et donc, ce jour-là, il fait très chaud, il part sur son cheval, je vais aller très vite. Et là, il fait corps avec son cheval, c'est une sorte, vous imaginez un centaure comme ça, ce prince sur son cheval. Le cheval, il le sent, il y a même pas, il lui obéit même pas, en fait. C'est un seul esprit, un seul corps. Et donc, les voilà qui vont dans la forêt, qui sautent, qui évitent les branches. Il faut imaginer comme ça, ce galop, comme ça. Alors, pour ceux qui ont déjà fait du cheval, ils savent de quoi je parle. Il faut imaginer ce galop, cette énergie que ça demande au prince. Il est épuisé. À un moment, il s'arrête. Le cheval et l'homme, ils sont comme ça, trempés de sueur. Il est au milieu de cette forêt immense. Là, il écoute le silence. Il n'y a pas de Blanche-Neige endormie, il n'y a rien. Et puis, lui, il est là, il a soif. Il entend le murmure d'une source, donc il suit. Et là, il voit une source. Et il s'approche de la source et il n'a qu'une envie, c'est de plonger sa tête et de boire l'eau de la source. Et au moment où il va faire ça, il entend une voix qui lui dit « Non, ne buvez pas cette eau-là ». Et là, lorsqu'il se redresse, il voit une jeune femme et il dit « Mais toi, qui es-tu pour oser me parler ainsi ? Moi qui suis prince, moi qui ai pouvoir de vie et de mort sur toi, je peux te faire tuer comme ça d'un mot ?» Et la jeune fille, elle lui dit « Moi, je suis la fille du bûcheron. Et si je vous ai dit de ne pas boire cette eau-là, c'est que justement... eh bien, elle est glacée et que vous êtes en sueur. Et que si vous buvez de cette eau-là, ben vous risquez la mort. Attendez, je vais vous ramener une eau que vous pourrez boire, qui a bonne température. » Alors le prince, il est un peu confus. Il ne sait plus quoi dire. Et il voit la jeune femme revenir avec, évidemment, de l'eau. Il la boit, il la regarde. Et c'est là où vous avez déjà deviné, évidemment, là, elle est rentrée en lui, quoi. Et lorsqu'il la quitte, eh bien, elle est avec lui. Et là, c'est un moment assez important dans l'histoire que vous connaissez, où il est pris du mal d'amour. Évidemment, le roi, la reine s'inquiètent dans l'histoire. On fait venir les médecins, les savants. Et là, il y a un médecin du simple coup d'œil. Il dit, voilà, il est pris du mal d'amour. Et il est bien pris parce que l'épine de l'amour est entrée si profondément dans son cœur que cet amour-là, s'il ne le vit pas, il en mourra. Et donc, évidemment, le roi et la reine, ils sont prêts à tout pour sauver la vie de leur fils. Alors, ils vont le voir. Et le prince, évidemment, il n'a pas osé le dire à ses parents parce qu'il sait que jamais ils n'accepteront que lui, prince, se marie avec la fille d'un bûcheron. Ça n'existe que dans les contes de fées, ce genre de truc. Il le sait. Et là, évidemment, le roi et la reine lui disent « Mais dis-nous avec qui tu veux te marier, qui tu veux épouser. On te promet, on acceptera, quelle qu'elle soit. » Alors, il dit « C'est la fille du bûcheron. » Et le roi et la reine... ils avalent leur salive. On envoie évidemment le messager. Bon, dans l'histoire, je vais aller vite parce que ta-ta-ta-ta-ta-ta. Messager, l'escorte, tout ça. On vient voir le bûcheron et hop, le messager, eh bien, il demande la main de la fille du bûcheron pour, eh bien, le prince du royaume. Et là, le bûcheron, il se tourne vers sa fille et il lui dit, toi, c'est à toi de décider. Alors le messager lui dit, moi, c'est à vous. Il dit, non, chez nous, on n'est pas roi ni reine. Chez nous, c'est à la fille de décider. Alors, il dit, tu veux l'épouser, ce prince-là? Tu le connais d'où? Alors, elle lui raconte toute l'histoire. Et là, à ce moment-là, la jeune femme, elle se tourne vers le messager, elle dit, mais moi, je ne peux pas épouser un homme qui ne m'aurait pas demandé, eh bien, ma main en venant lui-même. C'est pas dire, sinon, il ne m'aime pas. Alors, le messager, outré, retourne au palais, on apporte le message de la fille du bûcheron. Évidemment, le roi et la reine se mettent en colère. Le prince dit non, elle a raison. Si je l'aime, je dois aller la voir. Il va la voir. Il fait la demande officielle, faut imaginer. Et là, à ce moment-là, la princesse lui dit, mais c'est quoi ton métier? Il dit, mais je n'ai pas de métier, je suis prince. Ben, si t'es prince et que tu sais rien faire d'autre, tu sais rien faire, t'es pas un homme. Un homme, il a un métier. Alors moi, je peux pas t'épouser tant que t'auras pas de métier. Alors là, évidemment, imaginez le scandale. Et dans l'histoire, qui est très très longue, donc le prince va décider d'apprendre le métier de tapissier. Dans ce pays-là, hein, c'est un conte qu'on raconte notamment en Arménie. Et voilà, il y a les maîtres tapissiers. Il choisit le maître des maîtres tapissiers. Il va pendant 3 années tisser du matin au soir sans jamais s'arrêter. Et au bout de 3 ans, eh bien, il revient voir évidemment la fille du bûcheron. Il a un magnifique tapis. Lorsqu'il déroule le tapis devant elle, elle est émerveillée par l'œuvre où elle se reconnaît. Elle voit le cheval, la source. Elle voit un homme et une femme. Et elle accepte de l'épouser. Alors évidemment là, eh bien, d'habitude c'est la fin d'un conte puisqu'on dit donc ils se marièrent et ils vécurent heureux et nanana nanana. Sauf que l'histoire va continuer, elle est très très longue. Et là je ne vais pas vous la raconter parce que sinon ça nous occuperait. Donc je voulais effleurer. On ne peut pas s'empêcher de rentrer dans les images quand même du conte parce qu'elles sont puissantes et elles nous parlent à tous.
Très beau, oui.
Donc voilà aussi un autre prince. Pour nous les conteurs, les princes, eh bien, ce sont un peu des moteurs. C'est du muscle. Et c'est la femme qui fait naître l'homme toujours. Bon, c'est comme dans la vie.
C'est
hein.
Bien les contes.
Donc voilà, je repasse la parole à Marie-Charlotte.
Mais qui va la passer ? Merci Ludovic, qui va la passer à Séverine, parce que nous allons continuer et nous arrivons là, donc, toujours à la recherche de ce prince charmant que vous avez suivi à la trace et dont, on peut le dire, vous avez retrouvé les restes lors d'une fouille. On aurait peut-être d'ailleurs pu commencer... par cette fouille, avant de revenir aux Capétiens, c'est-à-dire qu'en fait, il y avait bien un prince charmant qui a été trouvé à Épinal.
Oui, alors effectivement, lors de fouilles archéologiques, une de mes collègues est tombée sur le prince charmant qui dormait profondément dans un château en ruine du XIVe siècle. Donc, grâce à cette découverte, on a pu effectivement retracer son histoire et comprendre ce qui lui était arrivé depuis l'origine de l'humanité, en fait.
Voilà, et donc on redescend là jusqu'aux Capétiens, on va trouver, vous avez trouvé quel type d'éléments ?
Alors, en fait, pour la période du Moyen-Âge, on s'aperçoit que le prince vit des moments un petit peu difficiles parce qu'en fait, vous avez à ce moment-là beaucoup de cavaliers, beaucoup de chevaliers qui parcourent le pays et qui sont eux aussi sur de beaux chevaux. Ils ont des uniformes étincelants et brillants et ce qui met beaucoup de confusion dans la part des jeunes filles sur qui est le vrai prince charmant. Donc effectivement, il se retrouve un petit peu noyé dans la masse avec des hommes qui ont été eux aussi héroïques lors de croisades ou de batailles et qui se sont fait remarquer par leurs faits d'armes. Et du coup, il passe un petit peu inaperçu et à ce moment-là, ça devient très très difficile pour lui.
Merci beaucoup. Je vous rappelle, peut-être que vous l'aviez vu l'an dernier, que c'est une équipe archéologique assez formidable, puisque en 2013, donc, ils ont découvert le prince charmant, mais en 2012, ils avaient découvert le cercueil de Dracula. Oui. C'est vraiment grande équipe. On se demande ce que vous allez découvrir en 2014 et... Nous serons là.
Bah, on a des projets de recherche très. Oui,
alors, quel projet de recherche pour 2014 ?
Alors, effectivement, là, nous allons toujours dans les Vosges, hein, parce que c'est vrai que c'est un territoire très, très riche en découvertes spectaculaires. C'est vrai que nous allons monter une grosse opération internationale sur un repère de sorcières.
Vous en saurez plus l'an prochain, bien entendu. Je consacrerai une table ronde à ces découvertes. Moi, je suis absolument passionnée d'archéologie et surtout des recherches menées par Séverine Braguier. Chantal, je me retourne vers vous. On va en profiter parce que on va après, voilà, pour montrer... Les 7 fins de Blanche-Neige, pour montrer cette anthologie que vous avez bien entendu déjà vue, Reine et Dragon, qui est l'anthologie de cette année dans laquelle vous avez publié une nouvelle. Et puis le zoo des chimères qui a déjà été remarqué et re-remarqué, cité pour de nombreux prix, voilà, que vous retrouverez évidemment sur le stand de Chantal Robillard tout à l'heure. Une dernière chose par rapport au prince charmant, Chantal, vous en parlez aussi dans La Fugue de la Fontaine aux Fées.
Oui, et aussi dans Zoo des Chimères, je vais y revenir. Donc dans La Fugue de la Fontaine aux Fées, je pars du conte de Perrault qui s'appelle Les Fées, F2ES, et qui parle de jeunes filles, deux sœurs, une bonne, une mauvaise, et leur mère qui est mauvaise. Alors c'est très manichéen comme conte, et les deux jeunes filles sont donc des paysannes. La mère les envoie régulièrement chercher de l'eau au puits. Elle envoie, la, surtout parce que c'est une corvée, que c'est lourd, la très bonne jeune fille qu'elle n'aime pas, hein, penser et ne pas aimer sa fille parce qu'elle est bonne. Et donc, elle l'envoie à la fontaine un soir très tard. Et là, il y a une vieille dame qui lui demande de l'eau. Donc, elle donne de l'eau à cette vieille dame. Imaginez, vous êtes à côté d'une source d'eau et on vous demande de l'eau. Être obligé d'en donner, c'est déjà très curieux. Et la vieille dame, qui n'est autre qu'une fée, lui donne pour don, puisqu'elle a été bonne, de cracher à chaque parole une perle ou un diamant ou une rose. Et la mauvaise jeune fille, je vais très vite aussi pour un. Mais justement, donc la mauvaise fille qui est envoyée à son tour par la mère, qui est furieuse de, du don qui a été fait à sa fille aînée, envoie l'autre, et l'autre qui est plutôt bébête, on va dire, hein, et qui pour être bonne aux yeux de sa mère se fait mauvaise, ce qui est très intéressant, ne reconnaît pas la fée, parce que la fée est déguisée en belle dame fastueuse, fastueusement fagotée, et qui lui demande de l'eau, et elle lui dit bah, serre-toi toi-même, enfin, ce que n'importe qui dirait probablement à quelqu'un bien habillé à côté d'une source qui veut de l'eau. Et cette mauvaise reçoit pour don de cracher à chaque parole une vipère, un crapaud, un serpent, enfin d'horribles bêtes, reptiles. Et je passe, la mauvaise fille va finir au coin d'un bois, rejetée de tout le monde, parce que chaque fois qu'elle parle, il y a des sales bêtes qui sortent. Elle va finir, elle va mourir au coin d'un bois, et la bonne va épouser un prince charmant qui passait par là. Et je suis donc partie de cette idée du prince charmant qui passait par là. C'est peut-être. Qui passait par là, et je me suis dit, pour qu'il l'épouse tout de suite, il faut quand même qu'il y ait une raison. Alors, bien sûr, elle est très jolie, bien sûr, en pleurant, en racontant son histoire, elle crache quelques roses et surtout quelques diamants et quelques perles. Mais en même temps, oui, ça ne suffirait peut-être pas. Le prince vient de perdre une infante qui était sa fiancée et qui est morte à 3 jours du mariage. Donc, toute la noce est prête. Tout est prêt et malheureusement, la jeune infante espagnole vient de décéder, sans doute empoisonnée, on ne sait pas, peu importe. Et donc, il ramène la jeune fille pour l'épouser. Seulement, une fois qu'il l'a épousée, alors le roi meurt très vite, donc en quelques jours, il devient roi, elle devient reine. Très bien, mais c'est une paysanne. C'est une paysanne, donc elle parle patois. Elle parle peut-être même pas français, mais un patois des Vosges ou d'Alsace, incompréhensible à la cour qu'on suppose être très Louis XIVe. Cette jeune fille, elle a une belle-mère qui est une princesse byzantine avec des beaux bijoux, ciselés, ornés, travaillés, etc. Et elle, les diamants qu'elle crache, ils sont bruts. C'est pas très beau un diamant brut. Hein. J'en ai pas vu souvent, mais j'en ai quand même vu dans des expositions. Ça ressemble à un vague caillou. Hein. C'est pas bon. Les roses, c'est plein d'épines. Et les perles, ma foi, toute la cour a déjà des perles à foison. Donc finalement, le don qu'elle a, on le trouve très commun. Et elle-même est très commune parce qu'elle sait danser la bourrée auvergnate, mais elle ne sait pas danser la valse, la mazurka et d'autres qui d'ailleurs n'existaient pas au XVIIe siècle. Mais elle ne sait pas danser les danses de cour, elle ne sait pas parler, elle ne sait pas s'exprimer. Donc on se rend compte très vite qu'à part d'être jolie, bon, elle n'a pas grand-chose pour elle. Et donc, c'est là qu'il va lui arriver des histoires, parce qu'ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. Elle a beaucoup d'enfants. Manque de chance, les mâles meurent. Il ne reste que les femelles. Donc, voilà. Donc, elle a des femelles. Et je ne vous raconte pas la suite, elle est assez terrible. Absolument. Juste dire que j'ai aussi travaillé sur le prince charmant petit, le petit prince.
Ah, oui.
Ça, vous le verrez dans Zoé des Chimères, si on n'a pas le temps de le lire.
Voilà, donc vous retrouverez Chantal Robillard sur son stand. Ludovic Suliman qui arrive là de Paris, qui nous fait la gentillesse de nous rejoindre juste aujourd'hui et de venir compter pour nous. Vous le retrouverez aussi pour son livre « Les mille et une vies » préfacé par Henri Gougaud. Ce sont des collectages, mais des collectages de vies qu'on pourrait dire ordinaires et qui pourtant sont des vies et des destinées uniques. Voilà. Et donc, nous allons terminer sur un très joli conte. Comptez cette fois-ci. Hein, qui est le conte de Zora et qui est un conte de prince. Ce conte achèvera cette table ronde, donc nous nous quitterons sur la fin du conte. Je vous dis merci d'avoir supporté ce froid, merci de nous avoir rejoints, merci à vous Chantal, merci Séverine, à vous Ludovic.
Alors merci Marie-Charlotte. Alors en écoutant la Chantal, ce que ces deux... Ces deux princesses, il m'est revenu une parole africaine qui dit parole, qu'est-ce qui t'a rendu si belle? Et la réponse des maîtres, c'est la façon dont on me dit. Et parole, qu'est-ce qui t'a rendu si mauvaise? Et la réponse des maîtres est la façon dont on me dit. Alors, histoire de Zora, c'était une fille de pêcheur qui va devenir reine parmi les reines. Et cette histoire, donc on n'a pas de temps à perdre, elle commence comme beaucoup d'histoires par...
Il était une fois.
Un roi. Ce roi avait un problème. Et son problème, en fait, c'est qu'il était tout juste roi. Avant, il était prince, le voilà roi. Il cherchait un conseiller, mais il ne voulait pas n'importe qui comme conseiller. Donc, il voulait un homme intelligent, juste, avisé. Autour de lui, il ne trouvait personne qui faisait l'affaire. Et là, il a eu une idée. Il a fait savoir, dans tout son royaume, que celui qui saurait quelle est la forêt où chaque arbre porte 12 branches, chaque branche 30 feuilles, chaque feuille 5 graines de vie, celui-là deviendrait le conseiller du roi. La nouvelle de l'énigme se répand dans tout le royaume. Et partout, ben, se pressent au palais ceux qui croient savoir, les sages, les savants, les érudits, ils viennent et les uns après les autres se présentent au roi. Et le roi, les uns après les autres, leur dit non, au suivant, comme dans la chanson. Et la nouvelle, elle arrive donc jusque dans un village de pêcheurs. Et ce soir-là, le pêcheur rentre chez lui comme tous les soirs. Il retrouve sa fille Zora, qu'il a élevée seule depuis la mort de sa femme, et lui dit « Ah, la chance Zora, celui qui saurait quelle est la forêt où chaque arbre porte 12 branches, chaque branche 30 feuilles, chaque feuille 5 graines de vie, deviendrait le conseiller du roi. Imagine cela !» Et Zora, elle regarde son père, elle lui dit « Si tu veux devenir conseiller du roi, papa, il te suffira de lui répondre ça. » Elle a soufflé la réponse dans l'oreille de son père. Et le père, le lendemain, il se met en chemin. Il va au palais avec ses plus beaux habits. Il attend son tour au suivant. Le voilà devant le roi, à toi. Alors, roi, la forêt où chaque arbre porte 12 branches, c'est le temps. Chaque arbre, c'est une année de ce temps. Les 12 branches, ce sont les 12 mois qu'il y a chaque année. Les 30 feuilles, évidemment, ce sont les 30 jours qu'il y a chaque mois. Et les 5 graines de vie, demande le roi. Et le pêcheur, eh bien... donne la réponse que lui a donnée Zora. Les 5 graines de vie, ce sont les 5 prières que tout bon musulman doit faire dans la journée. Nous sommes, eh bien, dans un pays musulman. Vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Et le roi a dit, c'est la bonne réponse. Dis-moi, toi qui es si intelligent, qu'est-ce qui est plein de trous sans quoi toi tu serais rien? Et le pêcheur regarde le roi et dit, je ne sais pas. Et le roi dit, moi d'un simple coup d'œil, j'ai vu que tu avais encore des écailles sur les mains, tu es pêcheur. Et donc le filet qui est plein de trous, eh bien, sans le filet, toi, tu n'es rien. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi tout seul qui as trouvé la réponse à l'énigme? Et le pêcheur, il n'était pas marchand, il ne savait pas mentir. Il dit non, c'est pas moi. C'est ma fille Zora. Ma fille Zora, roi. Oh, tu verrais comme elle est intelligente. Alors, dit le roi, demain, je veux voir ta fille Zora au palais, qu'elle ne soit ni nue, ni habillée, ni à pied, ni transportée. Qu'elle pleure, qu'elle rit en même temps. Va. Le pêcheur rentre chez lui, retrouve sa fille. Malheur! Le malheur s'abat sur notre maison, Zora. Le roi veut demain que tu retournes au palais ni nu, ni habillé, ni à pied, ni transporté, que tu pleures et ris en même temps, c'est impossible. Et Zora, grand sourire, répond à son père, ne t'inquiète pas, papa, ne t'inquiète pas. Et le lendemain matin, c'est ça qui est bien, dans les contes, le temps passe vite. Zora se prépare, prend le chemin du palais. Et tous ceux qui la voient, les hommes, les femmes et les enfants, tendent la main et se mettent à rire. Hey, regardez ces Zora. Ah, hey, venez, regardez ces Zora. Et tous de rire de plus en plus fort. Et ils accompagnent Zora. Une vague de rire arrive jusqu'aux oreilles du roi. Et le roi, il ne peut pas s'empêcher de rire quand il voit Zora, entourée de cette foule qui rit aux éclats. Elle est perchée sur un tout petit âne, ses pieds touchent à peine terre, elle est ni à pied, ni transportée, vêtue d'un simple filet de pêche, rien en dessous, ni nue, ni habillée. Elle a passé autour de son cou un collier avec des oignons, alors elle pleure, et puis elle rit, elle pleure. Et le roi la voit, elle lui dit « Zora, qu'est-ce qui sans bouger, sans courir, sans sauter, sans voler, fait le tour de l'arbre sans jamais s'arrêter ?» Et Zora répond évidemment « L'écorce de l'arbre, sans bouger, sans courir, sans sauter, sans voler, fait le tour de l'arbre sans jamais s'arrêter. » Alors dis-moi, qu'est-ce qui est tout nu et qui n'a jamais froid? Qu'est-ce qui traverse les ronces sans se faire égratigner? Qu'est-ce qui n'a pas de jambes et qui court sur la terre? Qu'est-ce qui n'a pas de bras et qui arrache les arbres? C'est le vent, a répondu Zora. Alors dit le roi, là où j'ai vu la pierre, je veux voir la fleur. Va. Zora rentre chez elle et le lendemain matin, alors je ne vous l'avais pas dit parce que c'était une surprise, Zora, en plus d'être intelligente, elle était belle, parmi les belles. Et donc, elle se prépare, elle se pare, elle se mire, elle se coiffe. Et puis, elle prend les bijoux qui viennent de sa mère et elle prend le secret des femmes. Vous le connaissez? Le parfum. Une goutte de parfum, ici. Et la seconde, là. Jamais trop de parfum. Et la voilà qui part. Elle est si belle que tous ceux qui la voient, ils ne peuvent pas s'empêcher, émerveillés, de faire « Waouh ! Regardez, c'est Zora ! Waouh ! Et les hommes, les femmes, les enfants la suivent émerveillés. Ce jour-là, je vous jure, même les chiens et même les chats, on les a entendus faire « waouh, waouh, waouh ». Et pour imaginer ce que le roi a entendu ce jour-là, on va juste faire un grand « waouh » émerveillé. À trois, vous êtes prêts? 1, 2, 3. « Waouh ». Le roi la voit, il fait « waouh ». Zora, là où j'ai vu la pierre de ton intelligence, je vois la fleur de ta beauté. Viens jusqu'à moi. Et voilà Zora face au roi. Et le roi, il ne peut pas s'empêcher encore de lui demander, « Dis-moi, Zora, où voit-on briller les plus belles étoiles ?» Et Zora répond, évidemment, dans les yeux des amoureux. Et là, dans les étoiles du roi, elle voit des étoiles filantes, des galaxies. Et Zora demande au roi, « Dis-moi, roi, quel est le tambour qui bat la plus belle des musiques ?» C'est le cœur, lorsqu'il bat d'amour. Et là, vous savez, on dit que les cœurs parlent au cœur. Le cœur du roi, le cœur de Zora se sont parlé. Cœur à cœur, le langage des cœurs universels, très simple. C'est moi, c'est toi, c'est toi. Et donc la suite de l'histoire, déjà, vous l'avez imaginé. Ils se sont mariés. Et là, évidemment, encore une fois, normalement, l'histoire s'arrête là. Mais non, dans ce conte-là, l'histoire ne s'arrête pas là. Ce n'est que le début du conte. Parce qu'il faut imaginer cette soirée-là, ce banquet, le peuple invité à boire, à manger, à volonté. Et puis il y avait les danseurs, les acrobates, cracheurs de feu et merveilles. Parmi les merveilles, il y avait des conteurs. Et donc, ce soir-là, à la fin du repas, le roi dit à Zora, « Eh bien, tu es reine de ce pays, reine de mon cœur. Sache que tes désirs sont mes ordres. » Et selon la coutume, Zora répond au roi, « Tu es roi de ce pays, roi de mon cœur, ta loi est ma volonté. » Alors dit le roi, « La loi de ce pays dit que seul le roi peut rendre la justice. Jamais, même si tu es reine, tu ne devras te mêler des affaires du pays. Ta loi est ma volonté. » Il en sera ainsi. Et il en a été ainsi pendant des jours, des semaines, des mois, des années. Ceux qui devaient naître sont nés, ceux qui devaient mourir sont morts. Et un jour, dans la Médina, la partie de la ville où il y avait tous les marchands, il y avait deux marchands voisins, un marchand d'huile et un marchand de parfum. Le marchand de parfum, c'était un charlatan, un escroc. Il avait très mauvaise réputation. Plus aucune femme ne venait dans sa boutique lui acheter de parfum. Ben non. Par contre, le marchand d'huile, c'était tout le contraire. Il ne vendait que de l'huile, mais des produits d'excellente qualité. On venait de loin. Et on disait que le marchand d'huile, avec son huile, il faisait de l'or. Et forcément, il y arrivait ce qui devait arriver entre les deux hommes. Le marchand de parfum est devenu jaloux du marchand d'huile. Il a percé un trou entre les deux boutiques pour l'espionner. Et un soir, par ce trou, par ce Judas, il a vu ce qu'il voulait voir. Il a vu le marchand d'huile en train de compter son trésor, ses pièces d'or, une à une. Vous êtes prêts, c'est à vous. 1, 2, 3, 4, 5, ça accélère. alors elle voit double, elle. Il y en avait 500. 500 pièces d'or, pas une de plus, pas une de moins. Et le marchand de parfum a vu le marchand d'huile ranger les 500 pièces d'or dans un foulard de soie bleu qu'il a attaché avec un lacet de cuir noir qu'il a caché dans une jarre parmi les jarres. À peine il avait tout vu, le marchand de parfum est dans la rue, se met à crier « Au voleur, au voleur, au voleur, garde approchée, on m'a volé mes 500 pièces d'or, je les avais mis dans un foulard de soie bleu avec un lacet de cuir noir, j'ai vu le marchand d'huile tout à l'heure sortir de ma boutique, fouiller sa boutique. » Les gardes rentrent dans la boutique, découvrent parmi les jarres, la jarre, les 500 pièces d'or, la preuve, malgré les protestations du marchand d'huile, on l'arrête et on le conduit devant le roi qui rend la justice. Et le roi dit: nous avons la preuve de ta culpabilité, donc tu auras le sort réservé aux voleurs selon la loi, on te tranchera la main qui a servi à voler jusqu'au poignet. Le marchand d'huile se jette aux pieds du roi, le supplie, lui dit: ce n'est pas vrai, le marchand de parfum a menti. Et le roi, il ne voit pas la vérité qui sort de la bouche de cet homme-là. En plus d'être un voleur, tu oses mentir devant moi, ton roi, alors on te tranchera la langue en plus de la main. Le marchand d'huile se met à pleurer. Zora est juste à côté. Elle a tout vu, elle a tout entendu. Elle voit bien que ce homme dit la vérité. Elle se lève et elle dit: pour savoir la vérité, il suffirait d'apporter une bassine d'eau bouillante. Elle a parlé devant tous, le roi ne peut la contredire. Qu'on apporte une bassine d'eau bouillante. On apporte une bassine d'eau bouillante. Zora reprend la parole. Si le marchand de parfum a dit la vérité, lui qui vend du parfum, les pièces qu'il manipule devraient sentir un peu le parfum, n'est-ce pas ? L'ambre, le musc. On a senti chacune des pièces. Aucune des pièces ne sentait le parfum. Zora reprend. Si le marchand d'huile a dit la vérité, lui qui vend de l'huile, il devrait y avoir un peu de gras sur chacune des pièces qu'il manipule, n'est-ce pas ? Ah oui. Alors on a plongé les 500 pièces d'or dans la bassine d'eau bouillante et on a vu une pellicule grasse remonter à la surface formant l'œil de la vérité. On a rendu sa liberté au marchand d'huile, on lui a restitué son trésor, on a arrêté le marchand de parfum, peu importe son sort. Oui, parce que Zora s'était mêlée des affaires du royaume. Et ce soir-là, le roi, au lieu d'écouter la voix de la raison, la voix du cœur, a écouté la pire des voix. Et vous la connaissez tous et toutes, la voix de la colère. La voix de la colère, celle qui peut nous faire commettre le pire. Et le roi a dit: pour qui tu te prends? Tu m'as ridiculisé, tu m'as humilié devant tous. Eh bien, je te répudie, tu n'es plus ma femme. Demain, tu retournes chez ton père dans la cabane du pêcheur. Vous savez ce que ça veut dire, répudier? Répudier une femme, et ça existe encore malheureusement, la femme, elle perd tout. C'est bien, mais si elle a des enfants, même ses enfants lui sont retirés. Zora regarde le roi, elle garde son sourire, et elle lui dit: ta loi est ma volonté. Demain, je retourne chez mon père. Ce soir, je suis encore reine de ce pays. Mes désirs sont tes ordres. Alors, je désire partager un dernier repas avec toi. D'accord, a dit le roi. Zora prépare le repas. Repas délicieux. Le roi se lèche chacun des 10 doigts. Tout le long du repas. Zora lui dit: ah, demain, je retourne chez mon père. Est-ce que tu permets que je prenne avec moi mon coffre de mariage que tu m'as offert? Je l'adore. D'accord, dit le roi. Est-ce que tu permets que je prenne mes robes? Je les aime tant. D'accord, dit le roi. Mes bijoux, mes parfums, je les adore. D'accord, d'accord, tu prends tout ce que tu veux, tout ce que tu aimes ici. Je ne veux plus te voir chez moi, chez ton père. Zora, à la fin du repas, prépare le thé et à l'insu de la vue du roi, elle verse dans le verre une poudre blanche, un somnifère. Le sucre, elle touille, le roi boit, à peine il a bu, bao, il ronfle. Les rois ne sont que des hommes. Vite, Zora roule le corps du roi dans un tapis, elle lisse le corps là à l'intérieur du coffre, les robes, les bijoux, elle referme, elle frappe dans ses mains. Les gardes viennent. Garde, emportez ce coffre chez mon père dans la cabane du pêcheur. Les gardes n'ont rien vu, ils transportent le coffre jusque dans la cabane du pêcheur, les gardes s'en vont, Zora ouvre le coffre, déroule le tapis, elle glisse le corps du roi, son époux, dans son petit lit où elle a grandi. Et elle allume une petite bougie et elle la place comme ça, à la tête du lit, comme on veille un enfant malade, elle attend. Et au matin, le roi s'éveille. Il la voit et fait: mais qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de retourner chez ton père. Et Zora, elle lui dit: mais je t'ai obéi, je suis chez mon père. Et lui, il dit: mais qu'est-ce que je fais là? Et Zora, elle lui répond: hier, tu m'avais dit que je pouvais emporter tout ce que j'aimais au palais. C'est ce que j'ai fait. Mais ce que j'aime le plus au palais, c'est toi. Alors, je t'ai emporté avec moi. Et là, évidemment, le roi, il a retrouvé le sourire. Il a retrouvé la voix de la raison, la voix du cœur. Et le roi dit à Zora, « Ah, oh, Zora, pardonne-moi. Hier, j'ai dit n'importe quoi sous l'effet de la colère. Accepte de redevenir ma femme, reine de ce pays, reine de mon cœur. Dis-moi oui. » Et Zora a répondu, « Non. Hier, tu m'as répudié. Même si je t'ai souri, tu m'as brisé le cœur. Non. Moi, je suis très bien chez mon père. J'ai pas besoin de toutes tes richesses et de ton palais. Rentre dans ton palais. » Et le roi, il regarde cette femme. Et il sent au plus profond de lui qu'il l'aime. Et il lui dit, « Zora, pour toi, je vais changer la loi. Si tu reviens avec moi, eh bien, tu rendras la justice à mes côtés. Ta parole vaudra la mienne. Alors maintenant, je te le redemande. Dis-moi oui. » Et là, Zora a répondu, « Ni oui, ni non. » Non, mais vous êtes trop tendre, hein, ça c'est clair. Là. Vous avez dû beaucoup souffrir. Mais oui, elle est là, elle regarde le roi, elle dit, « Dis-moi, pourquoi je reviendrai avec toi ?» Elle attend une parole, et le roi ne lui a jamais donné cette parole. Cette parole qui fait de chaque homme un roi, et peu importe à qui il l'a dit. Le roi a dit à Zora, « Reviens avec moi parce que je t'aime. Je t'aime. » Et Zora s'est levée, elle a dit d'accord, elle a suivi le roi. Et le comte dit que jamais la justice n'a été aussi bien rendue dans ce pays, car à la parole du roi s'ajoutait la parole de la reine, à la parole de l'homme s'ajoutait la parole de la femme. Ce n'est qu'un conte, mais les contes nous montrent la voie, à nous de la suivre. Le conte est terminé, comme on dit là-bas, à trois, celui qui respirera ira au paradis. Merci. Merci Marie-Charlotte, Séverine, Chantal. Merci à vous.